France Culture.
À voix nue, épisode 3, Mama méditerranéenne. Bonjour Noah Baz.
Bonjour Caroline Brouet.
Mama méditerranéenne, c'est le surnom qu'on vous donne à Necker. Il y a eu Docteur Bonbon aussi. Mais oui. Necker, c'est là que vous avez fait toute votre carrière, sans parler évidemment de ce que vous faites à Beyrouth encore aujourd'hui. Mais j'ai intitulé cet épisode 3 de cette façon-là, parce que nous allons parler médecine, si vous le voulez bien. Nous allons parler pédiatrie. Dans l'épisode 2, on vous a laissé au moment où la guerre battait son plein, puisqu'en 1975, au Liban, la guerre éclate et qu'elle va durer plus de 15 ans. Vous faites même plus. Et puis, il y a des sursauts. Vous faites des allers-retours, mais vous décidez, à Paris, une fois le bac en poche, on va dire, peut-être même avant, enfin, vous décidez d'être médecin. Ce choix de la médecine est venu très tôt, très jeune. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Bon, j'ai choisi d'être médecin quand j'avais 10 ans. Et je disais, je veux être pédiatre. Je disais pas, je veux être médecin.
Déjà. Ah, vous saviez déjà que vous vouliez être pédiatre ?
Oui, je voulais être pédiatre. Je voulais soigner l'enfance. Je voulais réparer. Réparer, peut-être à cause de l'exil, je voyais beaucoup de chagrin autour de moi. Je voyais les guerres. Et je voulais être un médecin à vocation sociale, ce qui était très prétentieux à l'époque, parce que mon père me disait, mais tu veux dire quoi exactement? Je disais que je voulais consacrer une partie de ce que je faisais à des gens qui n'avaient pas les moyens de se soigner. Je le disais déjà. Et il faut se dire aussi que socialement, mes parents étaient très impliqués. Il y avait ce qu'on appelait le cercle de la jeunesse catholique, où ma mère faisait tricoter toute l'année des pulls pour des familles démunies. J'étais scout, enfin j'étais guide, ce qu'on appelle, et donc on nous emmenait à Noël voir des familles démunies. Je savais que ça existait. Alors j'ai appris ensuite, plus tard, que mon père s'occupait déjà d'une trentaine de familles. Il avait permis aux enfants de ces familles de faire des études. Mais ça, il ne nous le disait jamais. C'est un père jésuite, un jour, qui m'a dit « Mais tu es la fille de... » J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Oh là là !» Et c'est lui qui m'a raconté, en fait, le soutien. Mes parents n'en parlaient pas.
Mais quand je dis, vous étiez dans un cocon, vous ?
Oui, parce que nous, il fallait juste être bon à l'école, étudier, ne pas fumer, rentrer à l'heure, enfin voilà, les choses habituelles. C'était très discipliné. On savait qu'il fallait, par exemple, à Noël, et c'était la tradition, laisser une place à l'autre. C'est-à-dire quelqu'un d'inconnu qui était invité en dernière minute et qui avait besoin de faire la fête. Et il y a eu un épisode là qui revient. Et ça a été très très fort maintenant que... Vous savez, au Levant, il y a souvent des enfants malheureusement qui mendient dans les rues. Et un jour, mon père, nous étions en voiture, il y avait une petite fille qui mendiait. Évidemment, maintenant on sait quand on grandit qu'il y a des trafics et que c'est des personnes qui les amènent pour... voilà. Mais à l'époque, nous avions au Liban le problème des Palestiniens qui étaient déjà réfugiés dans les camps et qui avaient une vie terrible par rapport aux autres. Il y avait beaucoup de disparités dans la société libanaise entre les personnes qu'on dit nantis et les autres, même si nous avions été élevés que la richesse n'est pas uniquement, c'est pas une question d'argent, la richesse c'est la culture, mais n'empêche que cette réalité existait. Et à la fin de ma première année de médecine, j'allais faire du volontariat dans une banlieue Bourj Hamoud, qui est une banlieue arménienne aujourd'hui, mais à l'époque qui était très pauvre, et j'allais m'occuper d'enfants avec des familles à problèmes. Donc j'aidais ces enfants à étudier. Donc très tôt, j'ai été responsabilisée quelque part, mais c'était aussi mon choix, d'aller aider les autres. Et il y a eu un épisode incroyable qui me revient, là c'est fou, un jour à Bourj El Barajneh, donc c'est un camp très 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 pauvre palestinien qui était vraiment laissé à eux-mêmes, où il y avait beaucoup de... les femmes de ménage venaient travailler de ce camp, pas chez nous. C'est sur la route de l'aéroport, mon père avait été surveillé, je crois que c'était les brûleurs ou un truc comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle techniquement, pour incinérer les déchets de l'aéroport. Et sur le retour, il avait vu une petite fille assise sur un trottoir en train de pleurer. Et il s'était arrêté. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe, machin. Il avait essayé, il ne voulait pas donner d'argent parce qu'il s'est dit, il y a peut-être les parents derrière. Et puis, il avait négocié que cette petite vienne vivre avec nous à la maison. Ma mère était devenue dingue. La petite avait passé 24 heures à la maison sur un lit de camp, dans le salon, dans la salle de télé. Je me souviens très bien de cet épisode. Et ma mère avait hurlé le côté suisse. Elle est pleine de poux, c'est impossible. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Elle est infectée, elle est pleine de choses. Et en fait, la petite n'avait pas... Elle n'était pas à l'aise, elle voulait revenir dans sa famille et tout. Et je me souviens de ça, ça m'avait frappée. Comment recueillir... Alors, mon père, pour ce... Il disait, mais ils n'ont aucun droit. Ils n'ont pas de papier, on ne leur donne rien. Je ne savais pas à l'époque qu'il y avait l'UNRWA, tout, je ne connaissais rien à tout ça. Mais il a dit, cet enfant, mais c'est terrible, on ne peut pas laisser un enfant comme ça dans la rue. Ça a duré 24 heures. Après, je sais qu'on l'a ramené chez elle et il a suivi la famille pendant des années très discrètement à côté d'autres familles, mais sans nous dire. Donc en fait, on n'était pas au courant, on l'a appris beaucoup plus tard. Donc il doit y avoir aussi dans les mystères de la génétique quelque chose là-dedans.
Et puis peut-être le cadeau de votre grand-père quand vous
le petit
aviez
prince.
10 ans,
ah,
Le Petit Prince, ouais. Qui est un livre qui ne vous a pas quitté,
il est là.
Qui avait un livre de
il
chevet.
Est il est dans le salon, là.
J'avais l'enfance, quoi.
Oui. D'ailleurs, dans la rubrique de L'Orient littéraire, à l'époque, il y avait une rubrique qui s'appelait « Votre livre de chevet ». On m'avait, c'était il y a 10 ans ou 15 ans, on m'avait demandé le livre de chevet. J'ai dit, mais c'est difficile de n'en citer qu'un. Mais si je ne devais citer qu'un seul, ce serait celui-là, parce que je l'ai relu une centaine de fois. Au début, je n'ai rien compris. J'ai vu cet enfant, la rose. En fait, c'était triste. L'histoire n'est pas... Mais c'était tellement plein de poésie. Les couchers de soleil, l'allumeur de réverbère, et le renard qu'on apprivoise. Et en fait, moi, dans mon métier, ce que j'aime le plus, puisqu'on parle de médecine, c'est apprivoiser un enfant. Parce qu'une angine, c'est comme une autre. Enfin, ou presque. Quand on soigne une angine, on soigne une... Mais un enfant, c'est jamais comme un autre. Et ce que j'aime le plus, c'est trouver la clé de l'enfant. C'est-à-dire comment arriver à lui parler, comment essayer de l'apprivoiser, de le comprendre. Et la semaine dernière, justement à Beyrouth, les petits soleils, pendant mes consultations, on me demande de voir un enfant qu'on avait rejeté de l'école en lui disant « Vous n'êtes pas fait pour le cursus scolaire ». Cet enfant, sa maman l'a attendu 12 ans. Elle l'a eu par insémination artificielle, hyper couvé, hyper truc. Et en fait, il s'appelle Ala. En plus, ça veut dire celui qui est le plus haut. Je vois un petit bonhomme de 7 ans, j'ai envoyé la photo d'ailleurs, mais d'une intelligence mais incroyable. Et puis je me mets à lui parler. Bon, je lui pose des questions comme je fais d'habitude avec les enfants. Et puis, je le vois faire ça, comme on fait défiler sur un écran. Je lui dis, toi, tu passes beaucoup de temps sur un écran. Il me regarde, il me dit, comment tu sais? Il clignait déjà les yeux 50 fois, donc sécheresse oculaire, ça c'est banal. Mais en plus, c'est un enfant très seul, un enfant unique. Donc en fait, il s'ennuie en classe. Et les profs n'avaient pas vu ça. Ce qu'ils avaient vu, c'est qu'ils n'intervenaient pas, qu'ils ne répondaient pas aux ordres, qu'ils ne rentraient pas dans les rangs. Donc, l'étiquette, c'est un enfant inadapté. C'est tellement facile de dire ça, alors qu'il faut aller juste un petit peu plus loin. Alors, je lui dis, tu ne veux pas me faire un dessin? Et là, il me fait un cœur rouge. Évidemment, ça, la maman s'est mise à pleurer. Elle me dit, c'est la première fois que je le vois dessiner, puis il m'a fait un soleil, puis on est devenus copains. Quand je suis rentrée à Paris, là, il y a quelques jours, il m'appelle tous les jours, on se parle, et je lui dis, tu as lu. Donc voilà, en fait, il faut prendre le temps d'écouter un enfant, déjà, pour le comprendre, de trouver la clé. Et je suis émerveillée par les capacités de ces enfants. À chaque fois, c'est un émerveillement. C'est-à-dire, quand j'arrive... Déjà, c'est une victoire quand on arrive à guérir un enfant et surtout avec les petits soleils, quand au départ, il n'y a pas les moyens pour. Mais même n'importe quel enfant, quand il est en position d'échec, qu'on lui dit tellement facilement qu'il est en position d'échec qu'en fait, ce n'est pas le cas, eh bien, c'est une victoire. C'est un émerveillement.
Les petits soleils qui nous ramènent à Beyrouth, oui. Puisque les petits soleils, je le rappelle, c'est cette association pour les enfants défavorisés du Liban qui sont malades, que vous avez créée en 1997. Et cette association est née d'un souvenir très douloureux pour vous,
oui.
Nora Baz, qui nous ramène des années en arrière, en janvier 1983, quand vous êtes en pleine guerre civile, en train de passer votre internat, puisque vous avez choisi en 1983, après la troisième année, de venir passer l'internat à Beyrouth.
Oui.
Janvier 1983, arrive aux urgences, où vous êtes, un enfant qui s'appelle Karim.
Oui. Un enfant qui s'appelle Karim, qui avait 7 ans et demi, qui était atteint d'une méningite gravissime. Et à cette période, la guerre battait son plein, mais c'était terrible, partout. C'était de la folie que je sois rentrée pour faire mon internat. Je me faisais engueuler tous les jours quand le téléphone fonctionnait par mes parents qui étaient à Paris. Et donc, le gamin arrive porté sur le dos de son grand-père, agriculteur, qui avait traversé depuis Jiyé, qui est un village au sud Liban, 17 barrages pour arriver à ce grand hôpital de la ville qui, espérait-il, allait guérir ce qu'on n'avait pas réussi à faire dans la campagne. Et il arrive. Et l'ironie, c'est que ni les guerres, ni les francs-tireurs, ni les balles qui fusaient de partout, ni les bombes n'avaient réussi à tuer cet enfant et son grand-père. Et il a fallu qu'il soit rejeté à la porte d'un hôpital pour décéder quelques heures plus tard. Et j'ai trouvé ça mais tellement injuste, mais tellement dingue, que je me suis dit, mais moi j'ai fait médecine pour aider, c'est pas pour qu'un... Voilà. Sauf qu'à l'époque, il faut comprendre qu'au Liban, les hôpitaux publics étaient dans un état absolument épouvantable, il n'y avait rien, et que le système de santé était pratiquement totalement privé, et qu'il était assujetti forcément aux moyens que les personnes avaient. La sécurité sociale existe au Liban, mais elle était totalement bancale. Et résultat des courses, j'étais étudiante, je n'avais pas les 3000 dollars que l'hôpital exigeait. Je ne pouvais pas appeler mes parents, il n'y avait pas de téléphone, c'était coupé. Et c'était après l'été 82 qui avait été terrible au Liban avec l'invasion israélienne qui était arrivée à Beyrouth, les massacres de Sabra et Shatila, c'était atroce. Donc, vers qui me tourner pour que cet enfant puisse être admis? Il n'y avait personne. Et là, je m'étais jurée, jamais plus je ne laisserai faire quelque chose comme ça, s'il était en mon pouvoir, évidemment, de faire quelque chose. Des années plus tard, donc quand nous sommes rentrés à Beyrouth après 15 ans et plus à Paris, je faisais du volontariat dans un dispensaire gratuitement tous les mardis matins. Et était arrivée une jeune fille qui s'appelle Gladys et qui aujourd'hui est une maman épanouie et heureuse de deux enfants et qui m'écrit une fois par semaine. Cette petite avait 11 ans à l'époque, elle est arrivée, elle était blanche comme un lavabo, pliée en deux, et le papa était chauffeur de taxi, mais chauffeur de taxi au Liban, c'est rien. Il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. Et il l'avait emmenée dans un hôpital, voilà, on lui avait dit c'est une gastro-entérite, rentrez chez vous, en fait c'était pas du tout le cas. Je mets le stéthoscope, je lui dis vous allez tout de suite faire une radio de poumon, c'est une pneumonie. Il avait 20 dollars de quoi payer la radio, donc dans le CHU où j'ai fait mes études et mon cursus d'interne. Et donc il arrive aux urgences et l'interne des urgences m'appelle en me disant « Docteur Baz, vous avez raison, c'est une pneumonie, il faut l'admettre tout de suite. Mais voilà, le papa n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « J'arrive ». J'arrive, je rentre voir le directeur de l'hôpital qui était un copain depuis les années de scoutisme. Je lui mets le chèque sur la table, je lui dis « tu fais rentrer immédiatement la petite ». 4 heures après, Gladys était aux soins intensifs pour une staphylococcie pleuro-pulmonaire. C'est une horreur. Elle a passé 3 semaines aux soins intensifs, 10 jours en hôpital normal, et à la sortie, la facture était de 27 500 dollars, je l'ai toujours. C'était énorme. Et là, je me dis « mais bon, moi, j'ai quelques économies de côté. Évidemment, mon père était là. Il me dit, mais tu sais, si tu vas pas faire beaucoup de cas comme ça, si tu continues comme ça, il faut vraiment que tu fasses une association, quelque chose. Je te vois te démener parce que déjà, discrètement, depuis 1 an et demi, depuis qu'on était rentrés, en fait, j'aidais sans avoir fait une association comme juridiquement bonne et due forme.
C'est comme ça que sont nés les petits frères.
C'est comme ça que sont nés. C'est avec Gladys que vraiment le côté institutionnel est né. Et depuis, ça va faire bientôt 30 ans. Voilà.
Comment fonctionnent les petits soleils, sachant, Nora Basque, que à Paris, vous êtes à Descaires régulièrement, pas tous les jours, mais presque, vous êtes en garde.
Oui, c'est ça.
Et puis que vous passez 10 jours, toutes les 6 semaines à Beyrouth, à vous occuper, notamment. Comment fonctionne cette association?
Alors, c'est très simple. Tous les rouages sont en place depuis des années. C'est-à-dire, là, j'ai 2 téléphones ouverts en permanence, nuit et jour. Mon numéro de portable français et le téléphone libanais. Je ne suis pas seule dans cette association. J'ai mobilisé autour de moi une 40aine de médecins, de paramédicaux, de psychologues, de volontaires qui n'ont rien à voir avec la médecine, mais qui sont, c'est comme j'appelle, des sentinelles que je peux appeler et immédiatement mettre tout en marche. Par exemple, il y a, avant qu'on ne quitte pour Beyrouth de quelques jours, donc il y a 3 semaines, c'était samedi soir, il était 11h à Beyrouth, donc 10h à Paris. Mon téléphone libanais sonne, WhatsApp. Et on me dit, il y a une petite fille qui vient de faire une chute dans les escaliers et qui a besoin d'un plâtre. J'ai son père au téléphone qui n'avait rien. C'était des gens qui avaient été relogés en hâte dans une des banlieues du Sud et qui n'ont rien, ni papier, ni rien du tout. Et il m'envoie la photo. Aujourd'hui, les temps modernes, ça sert aussi à ça. Je reçois une photo. J'ai dit, non, là, il y a une cyanose, c'est-à-dire que l'articulation était enflée. J'ai dit, il faut faire une radio. Le même schéma recommence. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. J'appelle une fille adorable qui s'appelle Stéphanie à la facturation du plus grand centre hospitalier en face du local des Petits Soleils. Et je lui dis, écoute, j'envoie cette petite, voilà son nom, son père. Je veux qu'elle ne paye rien. Je vous règle tout, mais il faut absolument la prendre en charge. Et ben, 2 heures plus tard, elle avait son plâtre. Elle est rentrée chez elle et tout va bien. Voilà.
Vous disiez, Nora Basque, ça fait bientôt 30 ans de fait qu'existe cette association, puisque nous enregistrons à l'automne 2025 ces avoies nues. En 30 ans, quelle évolution avez-vous vue, sachant que nous parlions de la guerre? Vous avez connu la façon dont la guerre agit sur les corps, la façon dont la guerre projette très rapidement, plus rapidement qu'il ne devrait être, les enfants vers l'âge adulte. Qu'est-ce que vous voyez de l'impact sur les corps des enfants, sur même la psyché des enfants?
C'est surtout sur sur le corps, il y a eu des souffrances absolument terribles à tous les points de vue. Les bombardements, des enfants ont perdu des membres. Moi, ce qui m'a le plus bouleversée, c'est les yeux. Quand les yeux sont touchés, parce qu'un enfant qui ne voit plus la lumière, pour moi, c'est atroce. J'essaye d'amener autant que je peux. Patrick, par exemple, opère gratuitement tout ce qui est ophtalmo, mon mari.
Il est ophtalmologue.
Il est ophtalmologue, oui, il a fait les 15-20. Il en a vu moins que moi, sauf le jour de l'explosion du port à Beyrouth, où là, il a vu ce que moi, j'avais vu pendant mon internat.
Le 4 août 2020.
Oui, le 4 août 2020 a été atroce. Et de tout ça, ça m'a beaucoup appris sur la nature humaine. Pas seulement en dégâts. C'est-à-dire, c'est sûr, les souffrances du corps sont là, terribles. Les souffrances au niveau psychique sont souvent malheureusement indélébiles. Mais ça m'a beaucoup appris sur la nature humaine, à la fois côté résilience et à la fois côté à pas du gain. C'est incroyable. Les gens, même dans le malheur, pensent à... J'ai vu des égoïsmes incroyables. Déjà, en tant que médecin, nous savons que la nature humaine est complexe, mais là, c'est beaucoup plus complexe. Et il ne faut jamais juger. C'est-à-dire que j'ai appris à essayer de comprendre le comportement. C'est-à-dire, un pays qui est livré à lui-même, où l'État est totalement... Bon, heureusement, là, il y a peut-être des signes de reprise de l'État, je ne vais pas aller trop loin, mais à l'époque, c'était un État de chaos. Donc, les gens étaient livrés à eux-mêmes, et je pense que sous toutes les latitudes, s'il y a une tornade dans un pays et que les gens se retrouvent totalement démunis et chassés de leur maison, je pense que l'humain, c'est un instinct de survie qui le pousse à apprendre un peu plus. Et je pense que ça m'a appris encore plus la tolérance, je dirais, plus que la résilience.
Est-ce que cette façon de penser aujourd'hui, Noah Baz, vous aide au quotidien dans votre métier? En particulier, je pense aux familles, aux parents, à la façon dont vous, vous pouvez vous comporter avec les parents quand il y a des choses difficiles à dire.
Déjà, le fait d'avoir fait de la génétique en plus de la pédiatrie me porte à avoir beaucoup d'handicaps et d'enfants qui sont, dès la naissance, porteurs d'handicap. Annoncer un handicap est toujours très douloureux. Pas seulement pour les parents, mais aussi pour le médecin. Alors, il faut trouver les mots pour le dire. Il faut trouver... Je pense à un petit Simon trisomique né il y a 3 mois. Et la mère qui pleurait tout ce qu'elle pouvait en disant « Mais c'est la honte, ça va être la honte dans la famille. » Et je suis restée 2 heures à lui expliquer combien de joie et d'affection un enfant trisomique peut apporter dans une famille. Parce que c'est un accident de la vie. Il l'avait pas vu. Aujourd'hui, tout est fait pour qu'on voit les handicaps. Or, cet handicap-là, le médecin ne l'avait pas vu. Elle était déchaînée. Elle voulait faire des procès. Ce que je peux comprendre, mais entièrement. Mais en même temps, relativiser. C'est-à-dire que mes principes, j'ai des principes d'éthique, ça c'est normal. L'éthique fait partie de mon métier au quotidien. Je ne vois pas comment on peut être médecin sans avoir d'éthique. Mais par contre, je ne juge jamais, je ne culpabilise jamais un parent, parce que ça ne sert à rien. Les parents, vous savez, en pédiatrie, on soigne autant les parents que les enfants. Pour moi, je prends beaucoup, beaucoup de temps avec la première consultation quand je vois un bébé tout neuf, comme je dis, qui vient de naître. Et je prends beaucoup de temps parce que je pense que ce temps que j'offre aux parents, c'est d'autant gagné pour l'enfant. Que des parents apaisés se comportent de façon apaisée avec les enfants. Et donc, c'est la partie, je pense, la plus intéressante de mon métier, oui. Parce que prescrire des antibiotiques, ça va un moment, quoi. Par contre, prescrire un art de vivre, ça, oui. Ça, je suis preneuse. J'essaye de le faire, en tout cas. Alors, la maman méditerranéenne, puisqu'on a commencé par ça, oui, effectivement, on m'appelle la maman méditerranéenne parce que je voyais arriver des petits-enfants du Maghreb, seuls, qu'on envoyait à Paris se faire soigner. Et je voyais cet enfant qui pleurait devant un plateau repas auquel il ne comprenait rien. Manger, c'est très important pour un enfant. Donc, j'allais consoler l'enfant, qui subissait parfois des examens très lourds, comme des ponctions lombaires. C'est très douloureux pour un gamin de 2-3 ans, seul, sans personne de sa famille. C'était atroce. Alors, chaque fois qu'il y en avait un, on disait « Elle est où, la maman ? Allez la chercher. Elle est où, Noah ? Elle est où, Noah ?» Alors, d'un service à l'autre, je courais, je... Et voilà, c'est...
Je voudrais vous poser une question sur la façon dont, dans votre métier au quotidien, vous arrivez à gérer des moments particulièrement durs, éprouvants, bouleversants. On sait qu'en pédiatrie, c'est l'un des métiers les plus difficiles qui soit en médecine de ce fait-là. Par exemple, est-ce que le fait que, en 1982, quand vous étiez justement interne aux urgences à l'Hôtel Dieu de France, et que vous avez dû gérer aux urgences l'arrivée du président Bachir Gemayel qui venait d'être assassiné. Est-ce que vous dites que ce jour-là a totalement changé votre vision de la vie Ensuite, il y a eu vraiment un avant-après. Est-ce que, par exemple, c'est aussi ces forces que vous avez acquises par ces expériences-là qui vous ont permis ensuite d'arriver à maîtriser les moments les plus durs que vous avez pu connaître avec des enfants?
Certainement. Alors, ça m'a appris, oui, beaucoup de choses, parce que mes voisins que j'avais toujours connus dans le quartier, je les ai vus écartelés dans des états terribles. J'ai vu des personnes que j'aimais beaucoup, des amis à moi qui étaient journalistes, assassinés de cette façon. Arrive la maman de ce président, cette femme, j'ai la chair de poule quand j'en parle, d'une dignité incroyable, et l'épouse du président arrive ensuite, son frère Amin, qui sera président après lui, et tout le monde se retrouve où ? Dans ma chambre d'interne, parce qu'il ne savait pas où s'asseoir. J'étais là, l'interne de garde, à 10h30 du soir, on voit arriver, dans un silence de mort, c'est le cas de le dire, un cadavre habillé de bleu. On a reconnu le président à la tenue qu'il portait. Il a fallu le recoudre pour que sa mère puisse le voir. Il n'avait plus de tête, son visage était explosé, il a fallu le recoudre. Et donc, jusqu'à 5h du matin, recoudre ce visage, je vous jure que vous avez le temps de penser à la destinée humaine. Vous vous dites, dans la vie, finalement, il y a quoi ? Le plus important, c'est quoi ? Et vous choisissez à ce moment-là, des deux mains, de ne plus regarder les choses qui sont douloureuses, mais de regarder du côté de la joie. Je crois que ce jour-là, je m'étais fait ce serment parce que j'en avais trop vu. Et je venais d'un milieu tellement protégé, je ne disais pas un monde de bisounours, non. Mais mes parents avaient eu la pudeur de mettre un écran avec tout ce qui pouvait, assombrir une éducation qui, pour eux, ne c'était pas forcément être dans la joie perpétuelle. Personne n'est dans la joie perpétuelle. Mais ils savaient que ce levant était compliqué, que nous étions nés dans un endroit du monde volcanique. Mais à travers les livres, à travers la culture, la musique, ils essayaient de nous transmettre un regard sur le monde. Et puis après, c'est mon caractère. Donc voilà, c'est comme ça. Ce que je raconte pour l'épisode de l'attentat de Béchir Jmaïel, je ne vous ai pas dit avant combien de fois j'ai été prise en otage par les diverses milices qui venaient. Et quand vous veniez de ranimer un malade, vous aviez passé 3 semaines à le remettre sur pied et qu'il venait l'étrangler dans son lit. C'est ça la guerre. Et on me mettait en joue devant une kalachnikov pour que je ne bouge pas, pour qu'ils aillent terminer leur truc. Ça m'est arrivé une quinzaine de fois.
Vous aviez 19, 20 ans, je le
rappelle. J'avais 21 ans et je n'ai jamais raconté ça à mes parents. Je l'ai raconté beaucoup plus tard parce que mon père me disait « Mais t'es folle, arrête médecine, mais ça suffit. Mais tu joues à quoi ?» Et j'étais fiancée à l'époque. Donc en fait, Patrick devenait fou. Mais il y a eu aussi des choses incroyables après cet attentat, comme des rencontres... des personnes qui m'avaient vu ce jour-là aux urgences, les gardes du corps de Béchir Jmaïel, dont un des gardes du corps est devenu un grand chef cuisinier, et qu'une cigarette ce jour-là a sauvé. Il était monté, fumait sa cigarette, en disant qu'il était trop stressé, il a échappé à l'attentat de cette façon. Et nous avons écrit un livre ensemble. Comme quoi, je cherche toujours à voir le bon côté. Je ne dis pas que ça a été terriblement douloureux. Et bon, ça m'a appris beaucoup de choses sur la vie. Ça vous apprend à vivre l'instant, à profiter de l'instant, à trouver de la joie dans tout. Et je revendique ça. Je pense que c'est pas seulement un instinct de survie au moment même, mais que ça peut aider énormément de gens autour. La perte d'un enfant, pour revenir à votre question, est toujours un moment terrible. Terrible. J'ai vu mes parents s'écrouler après le décès de ma sœur, subite. J'ai vu beaucoup de parents perdre un enfant dans un hôpital. Il y a eu des moments très durs, mais les enfants vous apprennent beaucoup par leur joie, par leur enthousiasme, par leur regard. Un enfant, c'est l'espérance sur la vie. Et je souhaite à tout le monde de garder une part d'enfance en lui. Moi, aujourd'hui, dans les moments durs, c'est vers mon enfance que je reviens. C'est à ces moments de nostalgie heureuse. À ces moments de bonheur avec lesquels je vis et qui sont fabuleux. Voilà.
Merci Noa Baz.
Merci Caroline Brouet.
À demain pour l'épisode 4.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Noa Baz, réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Loïc Duros, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.